Donc, bonjour Fabien Clavel.
Bonjour.
Tu viens donc aux Utopiales pour présenter l'apprenti de Merlin. Je voulais un petit peu savoir dans quel contexte s'inscrivaient ces deux ouvrages et que tu m'expliques un petit peu la genèse de ces deux tomes.
Alors la genèse, c'est d'abord Xavier Mauméjean, le directeur de collection, qui m'a contacté et qui m'a donné l'idée de départ, hein, qui m'a dit « Est-ce que tu voudrais faire quelque chose sur l'apprenti de Merlin ?» Et comme je le dis souvent, c'est moi je me suis dit tout de suite, l'apprenti de Merlin, ça m'a fait penser à l'adaptation de Disney où Arthur est le futur Arthur est le disciple de Merlin. Et je me suis dit que pour éviter de répéter ça, il fallait que ce soit une fille. Et d'autant plus que ça collait en plus à la légende, puisqu'on retrouvait des relations de maître à disciple avec Viviane et Morgane. Donc ça se fondait mieux pour moi dans cette histoire. Et tout est parti de là. Et après, on a discuté à savoir si on en faisait un volume unique ou un cycle. Comme mon idée, finalement, ça a été de raconter toute l'histoire de la table ronde, ça s'est transformé en cycle. Et donc l'idée, c'est en tout, là on est à la moitié, il devrait y avoir 4 tomes qui racontent en fait l'intégralité de l'histoire, sachant que tout est réorganisé, d'une part en fonction de ce qui, moi, m'intéresse, et aussi autour du personnage principal, donc l'apprenti en question, Anna, et c'est son point de vue qu'on suit tout du long. Donc vraiment, tout converge autour d'elle. Et tout est réorganisé en fonction de ce personnage qui est au centre de l'univers arthurien dans ses romans.
D'accord. Donc est-ce que c'était... Enfin, j'imagine que tu as dû te replonger dans des textes qui traitent de la matière arthurienne. Tu as procédé comment pour faire ton travail d'écriture et en même temps de réinterprétation du cycle arthurien?
Alors déjà, j'ai regardé les textes effectivement anciens parce que l'idée, c'était pas de partir de zéro, c'était vraiment de reprendre ce qui existait déjà, quitte après à l'accommoder à ma sauce. Et du coup, il y a un volume chez Bouquin sur la légende arthurienne qui est très bien fait, qui reprend beaucoup de textes très intéressants, donc j'ai relu tout ça. Il y a l'édition Pléiade de La Quête du Graal qui est assez complète. J'ai lu une histoire des rois de Bretagne aussi, qui m'a pas beaucoup aidé. Mais je crois que j'ai pas acheté le bon en fait, j'ai dû me tromper. En tout cas, je l'ai lu. Et donc je suis parti de tout ça, effectivement, je me suis renseigné sur les différents chevaliers, parce que c'était vraiment la question, lesquels garder, parce qu'on ne peut pas tous les décrire, hein, comme c'est jeunesse en plus, il ne faut pas que ce soit des trop gros volumes, et il ne faut pas que l'action soit trop complexe non plus, parce que sinon on perd du plaisir, de la spontanéité de l'histoire. Et puis l'idée aussi, c'était même pour des textes qui étaient un petit peu éloignés de choses que j'avais pas forcément envie de raconter, qui sont vraiment des embranchements un petit peu obscurs, c'était de voir les motifs qui sont utilisés pour rester respectueux, non pas forcément de la forme, mais du ton et des idées qu'on a, pour que en fait chaque idée, même si elle est transformée, ça fasse écho à des idées qui sont déjà présentes dans les textes. Je vais prendre un exemple. Je suis tombé sur un texte que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Les Enchantements de Rigomère. Et il y a une scène extraordinaire où je ne sais plus quel chevalier, je crois que c'est Gauvin, part à l'aventure, donc comme les chevaliers de la Table Ronde, et il tombe sur un village où il est extrêmement bien accueilli, tout le monde est charmant avec lui, les gens sont merveilleux, et d'un seul coup des cloches sonnent et les gens deviennent des fous furieux, s'égorgent, et c'est abominable. Et je me suis dit, ah, ça c'est vraiment quelque chose à réutiliser, donc. Typiquement, alors je ne l'ai pas encore fait, je pense que ce sera dans le tome 4, mais j'ai prévu de réutiliser un motif comme ça en le reglissant dans moi ce que j'ai construit autour de mon personnage. Voilà, donc c'est un peu un travail comme ça d'adaptation, de réinterprétation, mais tout ce qu'on va trouver dedans, il n'y a rien de gratuit. C'est vraiment des transformations, des étirements de motifs. Il y a quelque chose aussi dans le tome 2 sur une salle entièrement composée de cheveux. Et ça aussi, c'est un extrait, alors je ne sais plus de quel texte il s'agissait, mais il y a un combat d'Arthur contre un géant, et on raconte que ce géant, sa grande spécialité, c'est de couper les barbes des rois qu'il vient de tuer, et les cheveux aussi, et de s'en faire un manteau. Et donc là, encore une fois, j'ai étiré le motif jusqu'à en faire une salle complète. Voilà, et donc c'est des petites rêveries comme ça, des plaisirs, parce que c'est des images très fortes, et donc réutiliser la force de ces images qui ont été extrêmement bien trouvées et qui nous parlent même à travers les siècles, et de les reprendre comme ça pour voilà, les intégrer à ma propre dynamique.
D'accord, donc c'est vrai que tu parles d'images en fait, de puissance évocatrice, d'images qui traversent et de motifs qui traversent les siècles.
Oui.
Est-ce que c'est aussi, du coup, en réinterprétant le cycle, une manière de sensibiliser, alors peut-être le jeune public, en tout cas les jeunes lecteurs, à cette légende qui, finalement, à travers les textes médiévaux, n'est pas toujours très accessible à la lecture?
Alors effectivement, l'idée, c'est justement de ne pas trahir de ce point de vue-là, pour que si on se penche sur le texte, en allant lire un texte médiéval par la suite, on retrouve justement le thème en disant « Ah, voilà, c'est de là que ça vient, voilà d'où il s'est inspiré ». Moi, d'un point de vue personnel, c'est vrai que ça me faisait plaisir de remonter aux sources, sachant que, effectivement, dans chacun de mes livres, j'essaye de m'attaquer à un secteur un petit peu différent des littératures de l'imaginaire. Donc là, c'était la littérature arthurienne. Et c'est l'occasion pour moi aussi de creuser vraiment, de compléter mes connaissances, hein, parce qu'il y a vraiment énormément de choses que j'ignorais et que j'ignore encore. Hein, mais creuser un peu tout ça pour un vrai retour aux sources, histoire de ne pas faire quelque chose de complètement naïf. En ayant l'impression de faire quelque chose d'extrêmement nouveau, alors que bon, ça a déjà été fait. Et d'ailleurs, cette recherche se double aussi des réinterprétations plus modernes que je suis allé voir aussi pour voir ce qu'ils arrivaient à en tirer eux-mêmes, et parfois je m'en suis inspiré aussi.
D'accord, réinterprétation plus moderne de qui ?
Alors, notamment Camelot par exemple. Camelot qui. Ça, c'était pour l'idée qu'on est encore très très proche de la domination romaine. Et moi, c'est ce qui m'intéressait parce que je suis enseignant donc de lettres classiques. Donc l'Antiquité, c'est ma période. Et ce que j'aimais bien, c'était que le Moyen-Âge, que je connais assez peu d'ailleurs, que j'ai découvert petit à petit en lisant des textes, c'était une manière justement de faire une transition douce de l'Antiquité vers le Moyen-Âge. Et donc moi, je suis parti vraiment de cette idée où on est entre deux. C'est plus l'Antiquité, c'est pas encore le Moyen-Âge, et c'est donc un moment où tout est possible. Et l'autre idée que j'ai retrouvée chez certains auteurs, mais qui est présente dès le début, hein, c'est que la cour du roi Arthur, c'est une utopie. C'est-à-dire, c'est une tentative de monde politique idéal, où on met en place effectivement des idéaux, des idées de base, notamment des idées d'égalité, et je suis reparti de tout ça pour construire moi une utopie, dont on sait dès le début qu'elle va échouer, puisque le monde arthurien, c'est un monde très noir, hein, qui se finit très mal à la fin, où tout échoue, malgré les pouvoirs de Merlin. Merlin va échouer, Arthur va échouer, tout le monde va échouer. Mais c'est ce qui rend la tentative belle. Et donc je suis parti de là pour en fait glisser des idées anachroniques, bien sûr, mais des idées d'égalité, d'égalité des sexes, par exemple. C'est pour ça aussi qu'il fallait que ce soit une apprentie. Son point de vue qui montre que les filles peuvent aussi être des héroïnes de romans pour la jeunesse. L'autre idée, c'était de partir d'un point de vue social, mais chevaliers, pour la plupart, ce ne sont pas des nobles. Moi, je voulais que ce soit des paysans au départ, et ce sont des paysans qui se retrouvent chevaliers et qui vont donc devoir créer leurs propres idéaux parce qu'ils vont former une forme d'aristocratie, mais c'est pas une véritable aristocratie, mais qui doit s'inventer. Et donc l'idée, c'était qu'ils allaient en gros inventer une forme de Moyen-Âge, et puis avec plein d'éléments démocratiques modernes, que ça allait échouer, donc ça allait être oublié, et que le Moyen-Âge ensuite allait redécouvrir un petit peu ces idées-là. Donc c'est vraiment une parenthèse avec un monde qui disparaît. Et l'idée, par exemple, c'est qu'on retrouve, alors dans chaque livre un petit peu, je mets des éléments, dans le tome 2, il y a les tournois, par exemple, qui se mettent en place, sachant que les tournois, ils n'existeront pas avant quelques siècles, mais voilà, c'est ça, les tournois sont mis en place, petit à petit, on découvre les armures complètes, qui sont des armures plutôt du 14e, du 15e siècle, donc qui sont complètement à part, donc je lis ça justement à l'Antiquité, avec certains guerriers, les cavaliers cataphractaires qui existaient chez les Samnites, je ne sais plus exactement quelle population, mais on retrouve des éléments avec des guerriers à cheval extrêmement armés, extrêmement protégés, avec des lances d'ailleurs déjà. Et donc voilà, en essayant de montrer une espèce de transition entre l'Antiquité et ça, sachant que ces armures, qui sont vraiment les armures des chevaliers magiques bien sûr, vont ensuite disparaître et seront redécouvertes plus tard. Hein, c'est vraiment donc, voilà, ce milieu où tout est inventé, tout est possible, mais ça ne durera pas.
D'accord. Et Merlin, donc vous lui avez donné quel visage en fait? Comment vous avez fait pour écrire? Parce que finalement, on a souvent l'image de Merlin l'Enchanteur de Disney, ou alors l'image du druide un petit peu fou de la forêt de Brocéliande. Comment vous l'avez vu?
Alors déjà, moi, je l'ai déchristianisé, c'est-à-dire que je me suis retrouvé à lire donc le Merlin de Robert de Boron, qui est vraiment une vision complètement christianisée du mythe, où il est à moitié diabolique et à moitié pas divin, mais en tout cas de proche du divin. Donc c'est vraiment l'homme partagé. J'ai enlevé tout cet aspect qui correspondait pas en fait à l'univers que je décrivais, puisque, comme je disais, c'est un moment de transition, c'est-à-dire un moment où on ne croit pas, c'est-à-dire les dieux de l'Antiquité, on ne les croit plus, on voit qu'il y a des ruines romaines, il y a des autels, et l'héroïne d'ailleurs se demande, elle dit, comment se fait-il qu'il y ait eu des dieux et qu'on n'y croit plus, on ne sait même plus leur nom, et le christianisme qui était en train d'arriver à l'époque historiquement, chez moi, n'est pas vraiment arrivé. Donc les hommes sont entre deux croyances, c'est ce qui rend aussi les choses possibles, et d'ailleurs petit à petit le christianisme va s'imposer. Et du coup, j'ai oublié le début de la question.
Mais c'est un petit peu savoir le visage.
Ah oui, le visage de Merlin. Alors le visage de Merlin, du coup, donc j'ai enlevé cet aspect, et il reste l'aspect un peu joueur de Merlin. Le côté, donc il n'a pas la connaissance du passé et du futur, qui sont des pouvoirs qui découlent de cette double nature au départ. C'est quelqu'un qui est pour moi manipulateur, joueur, hein, qui ne respecte pas les règles, et je l'ai vu aussi un petit peu comme celui qui est présenté dans le film de Borman qui s'inspire de Mallory, mais j'ai pas eu accès au texte de Mallory, il est difficile à trouver en français, c'est-à-dire le Merlin qui arrive comme conseiller et qui en gros, c'est, dans mon idée, c'est lui qui essaye de mettre en place c'est lui qui manipule tout pour choisir un roi, pour choisir des idéaux, et tout ça va un petit peu lui échapper, sachant que Merlin, ça c'est une idée reprise à T.H. White aussi, et de Merlin l'Enchanteur, celui qui a inspiré Disney, c'est de quelqu'un qui est en gros traumatisé par la guerre. On retrouve ces idées, hein, la folie de Merlin quand il se réfugie dans les bois, souvent c'est après une bataille avec un massacre, donc il se réfugie dans les bois, il y a un moment de folie. D'ailleurs le tome 3 que je vais bientôt travailler parlera un peu du passé de Merlin, on va découvrir un peu ce qui l'a amené là. Et donc l'idée que c'est un Merlin manipulateur qui essaye de mettre en place cette utopie pacifiste, c'est-à-dire arrêtons la guerre, ça suffit de se massacrer, repoussons d'une part les envahisseurs, puisque en gros il y a des envahisseurs qui arrivent en permanence, repoussons ces envahisseurs et surtout installons la paix dans le pays. Et en même temps, il a quand même des pouvoirs magiques, il dépasse le temps, donc il lui arrive par certains moments de vieillir et d'autres de rajeunir en fonction de la vigueur magique qui l'habite. Ça c'est une idée que j'avais beaucoup aimée, qui est un petit peu présente, alors pas du tout dans une histoire de Merlin, mais dans le Baron de Munchausen, l'adaptation de Gilliam, où on voit que le personnage, plus on croit en lui, plus il est jeune, plein de vigueur, etc. Et plus il est en difficulté, plus il vieillit, plus il se rapproche de la mort. Donc j'ai réutilisé un peu cette idée, où en gros plus il utilise sa magie, plus il se fatigue. Et j'ai réutilisé aussi les histoires du sommeil de Merlin, et puis le fait qu'il apparaisse dans la légende de façon très épisodique. Pendant très longtemps, il n'y a pas de Merlin. Finalement, il apparaît assez peu, hein, dans les légendes. Et d'un seul coup, hop, il est là. Il donne quelques conseils et il redisparaît. Et donc moi, j'ai interprété ça comme des sommeils. C'est-à-dire, il faut récupérer de cette dépense magique. Et donc, entre chaque tome, en fait, il dort. Donc c'est pas un scoop. Si on passe du tome 1 au tome 2, il s'est passé plus d'une dizaine d'années pendant lesquelles le héros a dormi. Et ça me permettait en plus, d'un point de vue temporel, de faire des sauts dans le temps et d'aller que dans les moments importants où l'action se concentre, ce qui fait qu'à chaque fois, chaque roman dure quelques mois, un an, mais il y a des grands espaces. Et donc on va voir tout le monde vieillir, avec l'héroïne qui garde à peu près le même âge. Donc d'un point de vue narratif, c'était intéressant. Ça reprend, comme je disais tout à l'heure, des motifs qui existent déjà, donc c'est pas une pure invention de ma part, c'est une transformation. Et ça donne à Merlin un côté mystérieux. Je voulais pas qu'il soit trop révélé, c'est-à-dire que dans le roman, il apparaît aussi assez peu. Et c'est vraiment dans le tome 3 où on va découvrir un petit peu son passé grâce au Caerne. Moi j'en ai fait des passages pas interdimensionnels, mais des espèces de raccourcis magiques. Et dans le tome 2, on découvre que ces Caernes ont d'autres pouvoirs, que je ne décris pas maintenant, si jamais on n'a pas lu le livre, mais qui ont des pouvoirs qui permettent de découvrir vraiment des choses assez différentes, et justement de creuser un petit peu dans le passé. Et donc ça donne un Merlin. Donc là je vais réutiliser Merlin, en gros c'est pareil, il y a une métamorphose à chaque fois, hein, c'est donc le personnage qui se déguise, et c'est un personnage finalement très très ambigu, hein, son rapport notamment, qui sera aussi décrit petit à petit avec Anna l'héroïne, parce qu'il n'arrête pas de l'appeler Niniane ou Viviane, on comprendra après pourquoi il fait ce lapsus. Mais donc c'est vraiment un personnage pour moi qui est difficile à saisir, qui lui-même est complexe et qui est un petit peu torturé finalement.
D'accord. Et les deux autres tomes sont prévus pour quand ?
En gros, il y en a un qui sort chaque année, donc je pense que l'éditeur conservera ce rythme. Moi j'ai prévu de l'avoir écrit pour qu'il puisse sortir en septembre, en octobre prochain, et puis un chaque année comme ça. C'est un petit peu l'idée. Moi, j'aurais préféré qu'ils sortent un peu plus rapidement pour les lecteurs notamment. Puis moi, rester un petit peu plus dans le mouvement. Mais bon, c'est bien comme ça aussi. Ça me laisse du temps pour justement relire des éléments. Là, je vais relire toute l'histoire de Lancelot, puisque dans le tome 3, ce sera plus l'histoire de Lancelot, Guenièvre, etc. Et le tome 4, ce sera le Graal et toutes les aventures autour.
Permet d'ingérer un petit peu toute cette
voilà aussi
de textes. Bon, ben, merci, bon festival.
Ben, merci beaucoup.